Léon ! C'est Léon !
Le cri s'élève derrière l'homme de petite taille qui prend la fuite. Il court à l'ombre des pavillons. Les ronds de lumière projetés sur la chaussée par les candélabres sont ses pires ennemis. Il a commis une erreur. Deux même. Non, trois. Il s'est laissé entendre, voir et reconnaître. Maintenant, il lui faut faire de l'obscurité son allié. Il a déjà repéré le quartier et sait par quel souterrain s'enfuir. Il sème donc aisément ses poursuivants avant d'arriver à destination. Il bénit au passage la besace qu'il porte dans son dos et qui, une fois remplie, fait paraître le plus lourd des butins aussi léger qu'une plume. Essoufflé et transpirant malgré tout, il se glisse par la bouche d'égout et descend l'échelle avec une agilité surprenante. Il décroche la lampe torche à sa taille, la place entre ses dents et attrape un plan au fond de sa poche. Une grosse croix marquée au feutre noir indique l'emplacement d'un trésor, le sien. C'est sa réserve, sa caverne. Toutes ses rapines y sont entreposées. Entre chaque maison, elle est le passage obligé pour se décharger en vue d'une prochaine victime. Il s'y dirige au pas de course. Cette nuit est longue mais précieuse. Elle est la seule de l'année à lui permettre d'œuvrer en si grande impunité. Là, sous la ville, à son point le plus central, est disposée une multitude d'objets en tout genre. Ils ont pour point commun d'avoir été acquis sans mérite. Bijoux, médailles, costumes, caviar, voitures. Oui, même une voiture avait fini ici, et personne, pas même le maître des lieux, n'était en mesure de l'expliquer. Cette fois, il rapporte un cheval sculpté dans le marbre. Une pièce d'excellente facture trouvée entre des murs trop froids et un plafond trop haut pour appartenir à quelqu'un de respectable. Il le range au hasard, puis sort à nouveau sa carte pour connaître sa prochaine cible. Il s'agit de la propriété d'un bûcheron qui dissimule chez lui le fruit de son braconnage. Il s'apprête à vendre une essence particulièrement rare. Aussi le colis doit-il disparaître avant l'aube. Il se remet en route, la foule est légère, le faisceau de la lampe dirigé devant lui pour éviter les embûches. La sortie n'est pas très loin. Le temps de croiser deux rats et le voilà déjà à gravir l'échelle. Elle donne sur le fond d'un jardin. Il se glisse sur l'herbe, accroupi, et referme l'accès. Ses gestes sont lents et assurés pour lui garantir le silence le plus complet. Toutes les précautions sont de mise, hors de question de reproduire l'erreur du précédent larcin. Pas de précipitation. Cette nuit offre des scènes de crimes désertes. Il ne tient qu'à lui de se faire invisible. Un peu plus loin, des volets tressautent sous l'effet du vent. Il se place à leur aplomb, les pas amortis par la terre meuble. Après un rapide coup d'œil par-dessus son épaule, il se redresse pour glisser un crochet entre les vantaux. Un geste habile du poignet lui permet de venir à bout de ce premier obstacle. Il répète l'opération sur la fenêtre jusqu'à passer ses doigts sous le bois. Il la lève ensuite avec une extrême lenteur, juste assez pour s'y faufiler sans faire grincer l'huisserie. Il retombe tout en souplesse de l'autre côté et s'immobilise le temps de s'assurer que sa présence n'éveille aucun danger. Un muscle après l'autre, il se remet en mouvement, s'interdisant encore de respirer pendant qu'il referme la fenêtre. Tout à coup, un souffle le fait se retourner. À l'extrémité de la pièce, au pied d'une cheminée, un garçon affolé, balbutiant dans son sommeil, croit entendre le vent faire claquer les volets. L'enfant n'est pas censé se trouver là. Soit, il est trop tard pour reculer. Il ne reste plus qu'à redoubler de prudence et espérer qu'il ait le sommeil profond. Tous deux se trouvent dans un salon vaste mais austère. D'un côté, une petite table débarrassée, pas même assez grande pour y asseoir une mère et son fils. De l'autre, un butin des plus précieux pour qui veut marquer les esprits. L'intrus avance, ombre parmi les ombres. Seuls ses pas le trahissent sur le parquet. Autour de l'objet qu'il convoite, se dresse une forêt de conifères de tailles et de formes diverses. Aussi la collision s'évite-t-elle souvent au prix d'une latte qui craque. Il s'arrête enfin et pose au sol, grand ouvert, le sac qu'il porte dans son dos. Devant lui se trouve un gigantesque paquet tout enveloppé de papier cadeau. Il rit sous cape, satisfait, puis s'en saisit des deux mains, toujours en silence, pour le faire glisser dans son escarcelle. Le colis disparaît sitôt, aussi vrai que s'il n'avait jamais existé. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Il réendosse le sac et porte son regard sur le reste de la pièce. Ses yeux s'habituent à l'obscurité. Il s'arrête sur la cheminée à quelques enjambées de là. Sur la tablette, juste au-dessus du garçon endormi, des pains au lait et un verre de chocolat sont laissés à l'abandon. Son ventre, vide depuis trop longtemps, l'incite à s'y diriger. Ses pas se font plus feutrés encore. À 1 mètre de l'enfant seulement, il tend la main pour attraper le verre. Il s'essuie les lèvres avant de boire goulûment, puis le repose sur le bois du linteau. Il envisage alors les pains au lait. Il s'en saisit d'un, puis de deux, et se découvre un appétit si grand qu'il avale à grande bouchée, éparpillant de nombreuses miettes ci et là. La faim cède alors la place à la curiosité. Qui peut bien être l'enfant esselé en cette chaumière? Il retient son souffle pendant qu'il se penche sur le visage innocent à ses pieds. Une paire de lunettes y est toujours portée. Effaré, il observe ses propres traits dans leurs reflets. Que diable lui est-il arrivé? Il ne se reconnaît plus. De longs cheveux broussailleux se devinent sous son bonnet. Sa jeune peau raffermie est ombragée par 2 sourcils noirs et épais. Son nez est fin, presque aquilin, et sa bouche rendue bien trop imposante par l'absence totale de barbe. Son cœur s'emballe. Un mal de tête le saisit soudain. Il se relève, mais tape son crâne contre le linteau de la cheminée. Il étouffe un cri, et nauséeux prend sur lui pour ne pas perturber le sommeil du garçon. Alors qu'il sonde sa blessure d'une main, son regard s'arrête sur un livre à moitié caché sous le drap. Son emballage est éparpillé tout autour, déchiré en d'autant plus de morceaux que l'excitation de la découverte fut forte. Le bras du lecteur assoupi repose encore sur la dernière page lue. En l'examinant de plus près, il s'aperçoit que le texte n'a ni queue ni tête. Non pas que les mots aient la tête en bas, mais plutôt qu'ils s'agencent dans le désordre, comme si les phrases se terminaient par une majuscule, que les sujets succédaient aux verbes, et qu'au dénouement se substituait une situation initiale. Tout doucement, il écarte le bras et s'empare du livre. Il s'amuse de l'ignorance de l'enfant, qui, pour patienter jusqu'au lendemain, s'est à coup sûr jeté dessus sans avoir la moindre idée qu'une histoire compte un début, un milieu et une fin, et que cet ordre est immuable, imposé même à la plus marginale d'entre elles. Il chuchote alors en le replaçant à l'endroit exact où il l'a pris.
Fin d'une lecture d'homme ivre. Et pour révéler la logique, pique donc ta curiosité, livre-toi au miroir des fins.
L'homme de grande taille se relève au pied de l'âtre, ravi, en exprimant sa joie dans un souffle d'allégresse. Il se concentre sur l'enfant qu'il trouve à ses pieds, afin de protéger son sommeil. Aussi ne voit-il pas la tablette de la cheminée qu'il tape violemment avec son crâne. La douleur le saisit, il se masse, le dos courbé, et s'arrête sur les lunettes toujours posées sur le nez du dormeur. Il y examine l'état de sa blessure dans leur reflet. Ce qu'il y voit le rassure. Il est le même que d'habitude. Son bonnet est bien en place. Pas une égratignure ne se devine sur le contour de son crâne chauve. Ses rides de douleur se fondent dans celles qui creusent déjà son visage, aussi profondes que ses sourcils sont blancs. Son gros nez inspire et expire à grandes bouffées, mais en silence. Ses lèvres épaisses se perdent dans une longue barbe que l'on croit recouverte de neige. Soulagé, il se redresse enfin de toute son imposante carrure. Quelle peut bien être l'heureuse chaumière de l'élu à ses pieds? Il porte le regard alentour, mais l'obscurité oppressante l'empêche de voir bien loin. Il trouve donc en premier des pains au chocolat et un verre de lait disposé sur la cheminée comme s'ils attendaient sa venue. Des miettes éparses lui laissent entendre que son hôte lui-même aurait succombé à une portion de ce repas offert. Il n'en prend pas ombrage, et la curiosité laissant place à la faim, envisage les pains au chocolat. Il en prend un, puis deux. Son intérêt se porte alors naturellement sur le verre de lait qu'il avale à grande gorgée. Il s'essuie la barbe d'un revers de manche, l'estomac lourd d'une énième collation superflue. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Ses yeux s'habituent à l'obscurité. Le salon est de taille modeste, mais assez grand pour être encombré d'une foultitude d'objets. D'un côté, une grande table est dressée, prête à accueillir la famille autour d'un petit déjeuner copieux. De l'autre, s'étend un champ de mine des plus risqués pour qui veut se faire discret. Il s'y engage, invisible dans le noir. Seuls ses pas le trahissent sur le parquet. Il regarde avec une extrême attention où ses pieds se posent, car autour de l'arbre qu'il convoite se dresse une forêt de paquets de tailles et de formes diverses. Il les évite, un à un, jusqu'à s'arrêter enfin au pied d'un gigantesque sapin tout habillé de guirlandes. Il rit dans sa barbe, satisfait, puis se saisit toujours en silence de la hôte qu'il porte dans son dos. Il la pose et l'ouvre en grand. Sans qu'elle perde de son volume, il en sort comme par magie un énorme cadeau et le pose sous les branches. D'un pas feutré, il gagne la fenêtre la plus proche. Son souffle se suspend le temps de l'ouvrir. Priant pour ne pas faire grincer l'huisserie, il en escalade le rebord et atterrit sur l'herbe, puis s'interdit de respirer jusqu'à ce qu'il ait refermé. Il se retourne quand, dans son dos, le vent fait soudain claquer le volet. Il jette un œil par-dessus son épaule, immobile. Entre les vantaux, il voit l'enfant se retourner dans son sommeil. Il sait toujours lesquels dormiront à point fermé pendant son passage. Soit, il est trop tard pour se montrer maintenant. Ne reste plus qu'à déserter et espérer qu'il se réveille bientôt. L'heure est désormais à l'audace. Il lui faut espérer reproduire ses écarts culinaires encore de nombreuses fois. Pas d'atermoiement. Cette nuit offre des occasions inédites de bonnes actions. Il ne tient qu'à lui de les saisir toutes. Un dernier coup d'œil alentour. Puis il s'avance dans le jardin, faisant ployer l'herbe sous ses pas lourds. Une trappe se dessine dans la terre. Là est son échappatoire. Il se place à côté d'elle, et aussitôt, une échelle de corde tombe devant lui. Il la gravit pour rejoindre un traîneau lévitant dans le clair-obscur. Il s'assied à la place du cocher, attrape une lampe torche qu'il place entre ses dents, puis déniche une carte au fond de sa poche. Sur la voûte céleste, une discrète croix blanche marque l'emplacement d'un trésor, le sien. C'est sa réserve, son nuage. Toutes ses provisions y sont entreposées. Entre chaque maison, il est le passage obligé pour se recharger en vue d'un prochain don. Il ordonne à ses rennes de s'y envoler au pas de course. Cette nuit est longue, mais précieuse. Elle est la seule de l'année où il a pour devoir d'officier et de récolter toutes les bonnes intentions à son égard. Là, au-dessus de la terre, à son point le plus excentré, est rangée une multitude d'objets en tout genre. Ils ont pour point commun d'avoir été mérités sans avoir encore été possédés. Colliers, médailles, déguisements, chocolat, cheval. Oui, même un cheval avait fini ici, et personne, pas même le maître des lieux, n'était en mesure de l'expliquer. Cette fois, il saisit le dernier de ses mains géantes. Un animal élevé de gré, un étalon d'élégante stature, bientôt entre des murs chaleureux et un sol rehaussé par le foin. Il le fait disparaître dans sa hotte, puis sort à nouveau la carte pour connaître sa prochaine destination. Il s'agit de la chaumière d'un bûcheron qui subit bien des actes de braconnage. Demain, la menace sera plus grande encore, car il s'apprête à vendre une récolte particulièrement fructueuse. Son présent lui permettra d'y faire face, aussi doit-il être livré avant l'aube. Ses destriers l'amènent au-dessus d'un nouveau quartier. Le temps de croiser deux oiseaux, et le voilà déjà à dérouler l'échelle de corde. Il s'y accroche alors, la démarche alourdie de son nouveau colis. Le faisceau de la lampe torche droit sous ses pieds, pour s'assurer de trouver le prochain barreau. Vaillant malgré tout, il se laisse glisser jusqu'au toit en se réceptionnant tant bien que mal. L'endroit lui est inconnu, mais il sait toujours par où faire son entrée. Il trouve donc aisément un accès, maudissant au passage cette hôte qui fait souffrir le martyr à ses vieilles vertèbres. Il progresse prudemment au-dessus des pavillons. L'éclat des étoiles qui éclairent les tuiles est son plus grand allié. Reste à respecter une priorité. Deux même, non trois. Être silencieux, invisible mais reconnu. Maintenant, il lui faut faire de la lumière son ennemi, car déjà il se faufile par la cheminée. Il chuchote alors, excité par cette nouvelle intrusion.
Noël, c'est Noël.
And I